Bonjour, c'est Hugo Moissonnier, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Podcan, le podcast de la CAN sur RFI, votre petit manuel de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe habituelle. À mes côtés, Martin Guez. Bonjour Martin.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Dernier épisode, et oui, c'est un peu triste, dernière poule, dernier voyage, l'occasion de prendre de la hauteur pour finir en beauté, duel aérien à Limbé, station balnéaire, les aigles du Mali face aux aigles de Carthage. Deux débutants, ou presque, pour assister à cette bataille royale sur la terre ferme, des Mourabitounes et des Scorpions gambiens. Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie, voilà la composition de ce groupe qui n'est pas, on va pas se mentir, le plus emballant sur le papier de cette CAN camerounaise, mais ça forcément ça nous intéresse sur Radio France Internationale. Le Mali pourrait tout simplement reprendre son envol après un début de décennie passée plutôt beau au niveau de la CAN. Les aigles peuvent de nouveau, Patrick Juillard, je pense que vous serez d'accord avec ça, nourrir des ambitions au Cameroun.
Absolument, les aigles qui se sont qualifiés sans perdre un match pour les barrages de la Coupe du Monde, sans perdre un match et sans encaisser un but, qui avait déjà été une des meilleures défenses dans les qualifications pour cette CAN. Donc ça, c'est pour l'aspect défensif, la rigueur nécessaire pour aller loin, mais qui ont aussi des joueurs de talent en attaque, même si évidemment, ils ont pâti de l'absence de prolongé de Moussa Marega, qui a constitué un peu le feuilleton à épisode
sa carrière internationale entre parenthèses
depuis la dernière CAN et qui s'est terminé par effectivement son départ de
mais on peut presque voir ça comme
Portugal.
Quelque chose d'un peu positif, c'est-à-dire que même sans voilà, une star vous pouvez performer,
sans une star, sans une deuxième, Yves Bissouma autoproclamé meilleur milieu de terrain de première ligue, mais bon, il y a un fond de vérité dans ça. Enfin, je veux dire, c'est pas absurde de le penser de sa part.
Il ferait beaucoup de bien sur le papier à cette équipe du Mali.
Voilà, donc, mais malgré ça, c'est un collectif à émerger, une équipe sans faille, une équipe donc symbolisée par sa solidité tout d'abord, au-delà de ce qu'on peut penser du talent individuel de certains joueurs, mais c'est avant tout une équipe dure à manier, coriace, qui sait voyager. Donc toutes ces raisons font qu'on peut être assez optimiste pour le Mali, oui absolument.
Martin Guez.
Des aigles maliens qui défendent parfaitement leur nid, c'est ça qui nous a un petit peu étonné. Enfin, ne prendre aucun but, c'est assez prodigieux finalement pour une équipe qu'on connaît pas si bien que ça.
Juste préciser, parce qu'on a parlé de bons éliminatoires Coupe du Monde, les adversaires, Ouganda, Kenya, Rwanda, et pour la CAN, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dominé ces aigles.
La Guinée.
Une autre nation majeure de l'ouest de l'Afrique. Également la Namibie et le Tchad qui ont terminé derrière les aigles du Mali. Je vous ai coupé, Martin, désolé.
Une très bonne défense de l'Orni, je vous disais. Deux bons gardiens, peut-être à noter. Diawara, qui joue en Ligue des Champions à Malmö, du côté de la Suède. Djigui Diarra, le gardien du stade malien pendant très longtemps, qui est parti en Tanzanie. Et puis en attaque, on a découvert un joueur, Ibrahima Koné, un attaquant de Sarpsborg en Norvège. Pas vraiment un club qu'on connaissait. Il a empilé les buts. Ibrahima Koné, voilà. Il n'y a pas Marega, mais il y a Koné. Et puis surtout, il y a un certain Mohamed Magasouba sur le banc qui a l'air d'avoir réussi à fédérer son vestiaire et à fédérer cette équipe malienne.
Est-ce qu'on l'écoute Magasouba ou est-ce qu'on le présente ou l'inverse? Vous préférez quoi, Patrick?
On va l'écouter d'abord.
Exactement, on déroule le tapis rouge à Mohamed Magasouba, le sélectionneur malien du Mali.
Bonsoir RFI, c'est Mohamed Magasouba, le sélectionneur des aigles du Mali. C'est un groupe qui est très très dur, il ne faut jamais se surestimer, nous ne pouvons nous battre avec nos moyens. Il est un fait que la sélection malienne progresse de jour en jour parce que nous avons entamé une construction en profondeur, une organisation défensive assez solide, une construction de jeu assez fluide. Dernière étape, c'est-à-dire la finition. Aucune équipe n'est parfaite, mais nous sommes en train de progresser sérieusement et nous travaillons à la perfection et d'aller le plus loin possible avec cette équipe. Beaucoup de détermination, d'envie de se battre.
un côté un petit peu commando, un petit peu habité de cette équipe malienne qu'on avait déjà retrouvée l'an dernier, déjà au Cameroun, lors du championnat d'Afrique des Nations. Ils étaient arrivés jusqu'en finale et là aussi, ils s'étaient appuyés sur une base défensive assez impressionnante. Ils n'avaient pas pris un but en quart et en demi, ne cédant que face au Maroc, en finale 2-0. Mais ils avaient fait un très beau parcours, ces aigles locaux. Est-ce que c'est étonnant de retrouver ce Mali dans cette configuration-là?
Non, c'est pas étonnant. Je trouve que c'est le fruit d'un travail qui a été fait notamment par l'Académie Jean-Marc Guihou, qui a formé nombre de joueurs de cette équipe, et des joueurs qui maintenant arrivent à maturité dans de très bons clubs européens. On connaît bien Amari Traoré, le latéral droit du Stade Rennais, pour moi le meilleur latéral droit du championnat de France. Kiki Kouyaté, qui devient un excellent défenseur central au FC Metz. Alors d'autres sont dans d'autres championnats, Moussa Djenepo à Southampton, Adama Traoré qui était méconnaissable lui au FC Metz et qui a vécu une renaissance magnifique au Sheriff Tiraspol, qui joue la Ligue des Champions et qui est performant et qui est efficace. Hein,
qui fait du mal qui monte au gros
un excellent niveau alors qu'il avait déjà eu en Ligue des Champions africaine à l'époque du tout-puissant Mazembe. Adama Traoré, le petit frère de Amari Traoré, lui Adama Nos Traoré, parce que l'autre est surnommé Malouda pour ne pas qu'on les confonde. Meneur de jeu très talentueux qui joue en Turquie.
Donc, Amadou Aïdara peut-être aussi.
Amadou Aïdara, bien sûr, le milieu de Leipzig. Mohamed Camara, lui du Red Bull Salzbourg, également joueur remarquable, capable de couvrir beaucoup de terrain et d'avoir un abattage incroyable. Aliou Dieng, lui, qui est un joueur qui est resté basé en Afrique, qui joue à Al Ahly du Caire et qui est vraiment un des meilleurs milieux défensifs du continent. Donc, ça fait une belle densité de talents. C'est une équipe qui est habitée par l'envie de se battre ensemble. Il y a beaucoup de solidarité. C'est une équipe surtout coriace, dure à manier. Donc, ça peut être très embêtant. Alors, vous avez parlé de Koné en attaque, ce buteur qui a émergé, issu du championnat norvégien. Je ne suis pas certain que ce soit tout de même le point fort de l'équipe.
Non, mais Mohamed Magasouba se réjouissait de l'avoir intégré à l'équipe.
Oui, c'est bien c'est une belle pioche, disons, mais son intégration est récente. En termes d'automatisme et tout ça, c'est pas encore rodé pour moi à ce niveau-là et c'est peut-être le dernier étage de la fusée.
Alors, simplement rappeler quand même que la dynamique, elle est bonne. La CAN 2019 avait été plutôt réussie pour les Maliens, avec un huitième de finale perdu de peu contre la Côte d'Ivoire, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est plutôt un bon résultat. En tout cas, il y avait une bonne tenue du Mali. Et puis, plus récemment, vous l'évoquiez, cette qualification pour les barrages, la dernière étape des qualifications pour la Coupe du Monde en Afrique. Le Mali aux portes de la Coupe du Monde, c'est...
Ce serait une première.
Pas exactement. Ce serait une première participation, mais même dans les éliminatoires récents, le Mali n'a pas vraiment joué, n'a pas régulièrement joué la qualification, on va dire, jusqu'au bout. Donc, ce serait. C'est une bonne dynamique voilà, pour les aigles du Mali. Les résultats récents. Et peut-être terminer par l'homme qu'on vient d'entendre, Mohamed Magasouba. On a pu se rendre compte, ressentir son charisme, ne serait-ce que vocal,
son ascendant sur le joueur.
Et j'avais précisé à dessein que c'était un sélectionneur malien à la tête du Mali. Et voilà, il incarnera peut-être dans cette CAN la réussite des sélectionneurs locaux dont on parle beaucoup et notamment parce qu'ils étaient beaucoup lors de la dernière CAN et il devrait être un certain nombre encore sur les bancs camerounais.
Oui, et puis il faut souligner aussi le rôle d'un ancien international dans l'équipe qui lui est un binational, Fousseni Diawara, qui fait le lien entre Magasouba et les joueurs expatriés, qu'ils soient des locaux partis jouer au football en Europe ou bien des binationaux. Et donc ça, c'est, je pense, un personnage clé pour une équipe nationale africaine. Et sur ce plan, le Mali est mieux organisé que ne l'est la Guinée, qui pourtant est un pays assez proche en termes d'effectifs et de talent et de géographie. Donc, et voilà, c'est un bel exemple d'une équipe stabilisée et bien huilée en termes d'organisation aussi.
Bonjour, bonsoir, c'est Souala Danso Marseille. Bon, mon équipe c'est Mali. J'espère que le Mali sera libre jusqu'à la finale. Et moi, j'espère que le final sera Mali contre Cameroun. Donc, bonsoir, bonne soirée.
Mais le Mali aura un adversaire de taille dans la course à la première place de la poule ou en tout cas pour la qualification. Le Mali n'est pas forcément l'ogre de cette poule malgré ses bons résultats récents. Il y a aussi la Tunisie qui propose également de sacrées références, une participation à la dernière Coupe du Monde, une qualification également pour les barrages des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, une demi-finale lors de la dernière CAN. Les Aigles de Carthage, cette fois,
certes,
sauront proposer une belle opposition, de l'expérience, du métier à ces Maliens. Patrick, Martin, qui veut donner son avis sur les Aigles de Carthage de Tunisie?
Il faut souligner que la Tunisie, en se qualifiant pour cette CAN, a battu un record qui appartenait à l'Égypte, puisque la Tunisie s'est qualifiée pour sa 15e phase finale consécutive, ce qui est le record absolu en Afrique. Donc ça montre la régularité de cette sélection. C'est une équipe qui a quand même changé ces 5 dernières années, puisqu'elle a un peu suivi l'exemple de l'Algérie et du Maroc en menant une politique beaucoup plus active en direction des binationaux. Et aujourd'hui, il y a plus en proportion de joueurs binationaux d'origine allemande, française ou autre dans l'équipe qu'il y en avait il y a quelques années, où l'équipe était un petit peu plus basée sur les grands clubs tunisiens et en premier lieu l'Espérance de Tunis. Il y a encore des joueurs de cette équipe, mais c'est un petit peu plus une équipe comme le Maroc ou l'Algérie composée à grande majorité de binationaux. Sur le plan du jeu, Monder Kebayar a été un petit peu critiqué pour le contenu des matchs. Malgré tout, je trouve qu'il a bien réagi sur le dernier lors des éliminatoires Coupe du Monde, où la Tunisie devait à tout prix gagner contre la Zambie, a plutôt, je trouve, fait une prestation de qualité en se mettant rapidement à l'abri, en proposant des séquences collectives intéressantes. La Tunisie a parfois tendance à sortir de ses matchs et à mal réagir lorsqu'elle est menacée. Et il faut rappeler qu'en 2019, la poule dans laquelle évolue la Tunisie était presque la même que celle qu'elle aura cette fois-là, puisqu'elle avait déjà comme adversaire le Mali et la Mauritanie. Bon, c'était l'Angola comme le quatrième équipe. Et la Tunisie avait eu beaucoup de mal contre les petites équipes, notamment.
Mais ce qui était paradoxal,
la Mauritanie et l'Angola.
Donc en 2019, la Tunisie ne fait pas une excellente CAN.
Non, dans le jeu, c'était. Oui. Sur Alain Giresse.
Martin.
Non, ce que je voulais dire,
pardon,
Julliard fait le gentil flic. Moi, je vais faire peut-être le mauvais. Ouais, on parle des éliminatoires de Coupe du Monde. Il faut quand même rappeler qu'ils ont réussi à perdre en Guinée équatoriale. Ils n'avaient pas perdu un match, ils n'avaient même pas pris un but dans ces éliminatoires. Ils ont été perdus. Ils se sont mis en grande difficulté s'ils perdaient contre la Zambie le dernier.
Oui, je l'ai dit, c'est je trouve que c'est une équipe qui parfois ne manque de mental dans l'adversité. C'est une équipe qui est habituée en général à ce que ça se passe bien, à mener, à dérouler un petit peu. Si on regarde les résultats, la Tunisie gagne la majorité de ses matchs des éliminatoires. Et quand ça se passe mal, elle est un peu désemparée. Elle l'a été, elle a un peu perdu les pédales en Guinée équatoriale, cette équipe.
Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Hugo, la Tunisie qui a failli devenir la première équipe à aller en finale de CAN sans avoir envie de jouer cette finale, finalement, puisqu'ils se sont retrouvés un peu miraculeusement en quart de finale contre des Malgaches un petit peu cramés physiquement, qui avaient beaucoup donné, qui venaient de sortir la République démocratique du Congo. Ils ont gagné 3-0. S'en est suivi une purge complète contre le Sénégal, qui finissent par perdre en prolongation. Mais c'est vrai qu'il y avait une fracture totale avec Alain Giresse.
Rappelez-vous tout de même du pénalty raté par Ferjani Sassi. Imaginez qu'il l'ait réussi, la Tunisie aurait pu se retrouver en finale de
c'est
la
CAN. C'est vrai, on aurait eu Tunisie, Algérie, mais
sans montrer grand-chose dans le jeu.
Je me souviens qu'avec Olivier Pron, on avait commenté le match entre le quart de finale entre Madagascar et la Tunisie. Cette victoire, on va dire, logique au métier de la Tunisie. C'est pas trois occasions, trois buts, mais presque.
Enfin, réaliste.
Ça avait été finalement assez simple face à des Malgaches qui avaient déjà joué finalement leur CAN, qui avaient déjà réussi leur CAN. Et c'est vrai qu'à la fin du match, au coup de sifflet final, il y a la joie de passer qui contraste avec un peu la solitude d'Alain Giresse, qui avait été complètement mis de côté, semble-t-il, par une partie de son staff et ses joueurs.
Oui, c'était plutôt Maher Kanzari qui faisait l'équipe sur
et la puis
fin.
On se souvient, j'avais interviewé Wahbi Khazri, l'une des stars, si ce n'est la star de l'équipe. C'était une joie mesurée. Bon, il est un peu corse aussi, Wahbi Khazri, donc il n'est pas forcément expansif.
Wahbi Khazri, toujours un petit peu la star de cet effectif qui se renouvelle finalement très peu. On a l'impression que ça bouge pas beaucoup quand même cette équipe de Tunisie, et qu'on retrouve soit la génération est vieillissante, soit ça se renouvelle pas beaucoup, Patrick Julien.
Je nuancerai quand même un petit peu, parce qu'on a l'émergence de Laidouni au milieu, le milieu de terrain de Ferencváros. Ben Slimane également de Brøndby, qui est un milieu offensif qui peut rendre beaucoup de services, qui est très polyvalent. Il y a Kesh Rida aussi sur le côté droit qui a gagné sa place, qui était déjà là en 2019, mais qui a pris de la densité, qui est parti jouer en Serie A. Donc c'est pas négligeable quand même, et surtout des jeunes binationaux qui ont été intégrés par petites touches, mais dont l'Aïdouni, bien sûr, mais d'autres, Hamza Rafia, prêté par la Juve au Standard de Liège. Donc il y a quand même de la qualité dans cet effectif. Et puis, le joueur pour moi clé, peut-être sans doute plus que Kazri, c'est Elias Kiri au milieu, qui est
blessés,
le joueur qui permet de remonter le bloc, qui est très performant à la récupération, dans l'orientation du jeu aussi, le premier relanceur. Et il a été blessé, il devrait être là pour la CAN, et oui, c'est un joueur qui est majeur dans cet effectif. Il faut juste espérer, comme pour le Mali, que des problèmes extérieurs ne viennent pas interférer. Le Mali, il y a eu récemment une affaire de prime, hein, on doit le rappeler, lors de la fin des éliminatoires Coupe du Monde, une fois la qualification acquise. La Tunisie, ça peut être des affaires de bisbilles dans le staff. Enfin, on l'a vu en 2019, il faut espérer que ça n'arrive pas, puisque le coach actuel, qui est Bayer, est un peu fragilisé. Donc, attention.
Eh bien, ça m'apprendra à provoquer Patrick Julliard. On prend une leçon avec tonton Patrick.
Je crois qu'il a quelques attaches avec la Tunisie. Et qu'il,
quelques-unes.
Suivra cette équipe avec une touche un peu plus personnelle que les autres. Mais je n'en dévoile pas plus, mon cher Patrick Julliard. Voilà pour le choc de titan dans les airs de l'Imbé. Les arbitres auront les pieds bien ancrés dans le sol normalement. Je dis bien normalement, parce que si la Mauritanie a brillé pour sa capacité à structurer son football, à construire les fondations d'une réussite assez récente, mais tout de même souvent citée en exemple sur le
et commenceront pour le Mali
continent, effectivement, on fera un point calendrier dans un instant, mais la Mauritanie a un petit peu imité en termes d'instabilité nombre de ses voisins en se séparant récemment d'un sélectionneur qui l'a mené à beaucoup de choses, hein, Corentin Martins. Parti alors que la Mauritanie venait de participer à ses premiers CHAN et surtout sa première CAN en 2019, mais il y a eu de très mauvais éliminatoires de Coupe du Monde avec déjà la Tunisie, hein, dans le coin, la Mauritanie dernière de sa poule récemment en éliminatoire de la Coupe du Monde, ce qui a mené notamment au limogeage de Corentin Martins. On va d'abord, avant de parler plus en détail de la Mauritanie, faire un petit point sur le calendrier. Martin, vous y teniez, allez-y.
Tout à fait, les deux gros qui s'affrontent pour commencer, Mali-Tunisie, le choc des aigles, et puis le match des petits, Mauritanie-Gambie dans cette première journée. Deuxième journée, Tunisie-Mauritanie et Gambie-Mali, et puis pour terminer, le Mali contre son voisin mauritanien et la Tunisie qui affrontera le petit poussé, la Gambie, première participation à la CAN.
Est-ce qu'elle a vrillé cette Mauritanie, cher Patrick Julliard ?
Alors, il faut savoir que lorsque Corentin Martins a été limogé, remercié, entre guillemets, tout le monde n'était pas d'accord pour le faire. Et c'est plutôt sous pression des autorités, notamment du ministère, qu'il a été limogé. Je ne suis pas certain que la fédération était dans son entier favorable à ce limogeage, mais ils ont cédé. Ce qui était reproché à Corentin Martins, c'était notamment de ne pas beaucoup faire évoluer cette équipe et d'appeler des joueurs sans club, dont Adam Abba, un joueur emblématique, l'ailier droit, régulièrement dans l'équipe alors qu'il ne jouait plus. Et c'est vrai qu'il n'a plus de club depuis plusieurs mois. Voilà, je vous rapporte juste ce qui m'a été un petit peu expliqué. Je trouve qu'effectivement que la Mauritanie manque un peu de... C'est une équipe à la recherche d'un second souffle. Elle se basait beaucoup sur sa combativité, sa compacité, sa rudesse, un petit peu cette force collective. Et lorsque ça a un petit peu disparu, il n'y avait pas beaucoup de plan B, en fait. C'est pas une équipe qui a un fond de jeu suffisant pour compenser un manque de... quand elle n'est pas à 100%, quoi. Et donc ça, il va falloir que Didier Gomez da Rosa, qui a été nommé sélectionneur, trouve peut-être des moyens psychologiques pour relancer ses joueurs, pour leur redonner une envie qu'ils avaient un peu perdue au fil des matchs, selon les responsables, parce que l'équipe était un peu dans un certain confort et évoluait trop peu. Ça, donc, c'est juste l'avis des responsables, c'est pas forcément le mien.
Un électrochoc, c'est
voilà.
Ce qui est recherché.
C'est
par
peut-être
le changement
ce qui est espéré. Ouais.
Et l'arrivée de Didier Gomez da Rosa, Martin Guez.
Ouais, c'est une équipe qui a gagné que deux de ses 12 derniers matchs. C'était un petit peu difficile.
Ça s'essouffle.
Ces derniers temps, Didier Gomez da Rosa, pour l'avoir eu au téléphone assez récemment, voilà, il salue évidemment le travail de Corentin Martins. C'est pas facile de passer derrière lui. Ça faisait 7 ans qu'il était était là. Avant lui, il y avait Patrice Neveu. C'est vrai que c'est une équipe qui fait un bon travail depuis une dizaine d'années. Ça se base sur Noidibou, cette petite ville, ce port de pêche dans l'ouest du pays. Enfin, c'est pas une petite ville d'ailleurs, mais tout se passe pas à Nouakchott, ça se passe plutôt à Noidibou pour le football. Et Didier de Gomes da Rosa, première fois qu'il va entraîner une sélection, il reprend une équipe qui s'était qualifiée pour la CAN 2019 et qui finalement arrive à faire ce que n'a pas fait Madagascar ou le Burundi, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste un coup d'éclat, une participation, mais enchaîner avec une deuxième. Et c'est quelqu'un qui est assez connu pour des mandats un peu commando. Il avait repris Coton Sport à Garoua au Cameroun, il avait repris le Rayon Sport avec des succès, il avait remporté le championnat du Rwanda ou le championnat camerounais. Il a eu des bons résultats aussi avec le Oroya de Conakry, ou plus récemment avec Simba en Tanzanie, qu'il a mené en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, il a pas beaucoup de temps pour travailler, mais il a ce côté un petit peu meneur d'homme, mission commando, qui pourrait convenir à ces Mauritaniens qui ont effectivement besoin d'être reboostés et de retrouver un peu d'allant, les Mourabitoun, pour cette Coupe d'Afrique des Nations.
Et vous parliez du bilan de ses prédécesseurs, Patrice Neveu, effectivement, avant Corentin Martins, qui qualifie la Mauritanie pour son premier CHAN. Sa première grande compétition africaine, c'est en 2014 en Afrique du Sud. Et puis derrière, Corentin Martins peut se targuer d'avoir emmené les Mourabitoun à disputer leur première CAN 2019 en Égypte. Et puis un autre CHAN 2018 au Maroc. Donc il y avait une progression spectaculaire de la Mauritanie. Et on va voir si Didier Gomes da Rosa peut la poursuivre ou lui redonner un certain élan.
Après, c'est un pays qui a bien travaillé. Vous l'avez dit, le football s'est bien structuré. Il y a même un championnat féminin. Hein. C'est pas rien quand même dans un pays comme ça qui partait presque d'une feuille blanche.
Après, et puis on parlait de Noidibou, club désormais entraîné par Amir Abdou, qui a également des ambitions. Donc
avec
c'est une structuration
aussi.
Oui,
tout se croise avec la Mauritanie.
Amir Abdou qui est le sélectionneur également des Comores, mais qui n'est pas venu à Noidibou pour rien.
Absolument. Et maintenant, le pays se heurte aux limites de son réservoir. On peut pas, c'est pas le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, c'est un plus petit pays, un pays où le football est moins ancré de longue date. Donc il peut y avoir des creux générationnels, c'est pas non plus forcément la faute des dirigeants, ça peut arriver. Maintenant, il va falloir que Didier Gomes gère au mieux l'essoufflement que Martin a bien décrit, qui était perceptible ces derniers mois, et trouve un second souffle. Et ça, il a peu de temps pour le faire.
Un seul joueur peut-être à retenir, l'attaquant Aboubakar Camara. Il joue en Grèce en ce moment, mais il est passé par le championnat anglais. Il a déjà marqué des buts contre des grosses équipes anglaises, contre Arsenal notamment. C'est peut-être lui.
C'est un franco-mauritanien formé, passé par Amiens également, par Dijon, donc qu'on connaît bien en
Exactement.
Ligue 1 et qui est un joueur assez efficace.
Qui est né en banlieue parisienne, mais qui est un peu l'attaquant phare de cette équipe. C'est peut-être s'il faut retenir un nom, sera peut-être le sien si on veut suivre cette Coupe d'Afrique des Nations.
J'ai dit camarade de Nouakchott Mauritanie. Mon équipe, c'est les Mourabitoun de la Mauritanie. Et l'équipe que je veux qui remporte cette CAN, j'aimerais que les Mourabitoun le remportent pour la première fois.
Un point sur les éliminatoires, on fait ça pour chaque équipe. Donc les récents éliminatoires de la Mauritanie. Pour cette CAN, elle s'est qualifiée derrière le Maroc, devant le Burundi et la Centrafrique. Donc plutôt logique. Mais c'est vrai que les éliminatoires Coupe du Monde, dont on a parlé au début de ce chapitre mauritanien, ont été très difficiles. La Mauritanie qui termine dernière de sa poule, derrière la Tunisie, la Guinée équatoriale et la Zambie. Ça, c'est peut-être un mauvais indicateur, puisque là, vous avez des équipes niveau CAN, en tout cas, soit qualifié pour cette CAN à venir.
C'est sûr que c'est pas la Centrafrique ou le Burundi, c'est les plus grosses équipes.
Donc voilà, mais il y a un nouveau chapitre, une nouvelle page qui s'ouvre pour les Mourabitoun. Nous, en ce qui nous concerne, on la referme pour eux dans PodCAN et ce dernier épisode. Et on va terminer, conclure notre série de podcasts et cet épisode en particulier consacré au groupe F de la prochaine Coupe d'Afrique par un nouveau venu, une équipe qui vous tient particulièrement à cœur, Martin Guez. Vous avez eu l'occasion un petit peu de la suivre de loin, la Gambie, petit poussé à peu près dans tous les sens du terme. Le pays est
un petit scorpion.
Un petit scorpion, mais vous savez que malgré sa taille modeste, le scorpion peut faire beaucoup de dégâts. Alors peut-être faut-il miser sur ces Gambiens. La belle histoire, comme on dit, de cette CAN au Cameroun.
Votre métaphore filée marche très bien, Hugo Moissonnier, une équipe qui a terminé première de son groupe de qualification, complètement inattendue, devant le Gabon et la République démocratique du Congo, et puis devant l'Angola, même s'il y a eu cette nuit de banjoule un petit peu honteuse sur laquelle on reviendra, où les joueurs gabonais avaient dormi à l'aéroport et n'avait pas pu disputer ce match capital dans les meilleures conditions. Mais la Gambie, qui s'appuie sur un nouveau sélectionneur qui s'appelle Tom Senfit, un sélectionneur belge qui lui-même s'appuie sur un attaquant qui s'appelle Hassan Cissé, qui joue dans le championnat suisse, qui performe cette année avec Zurich. C'est lui qui a marqué le but vainqueur, le but historique pour la qualification avec la Gambie contre l'Angola. Et nous, on a eu la chance d'avoir un petit message du plus francophone de cette équipe. On rappelle que la Gambie est un petit pays imbriqué dans le Sénégal à majorité anglophone. Mais le plus francophone, c'est donc le sélectionneur belge, Tom Senfit, qui nous a laissé un petit message en français.
Salut, c'est Tom Senfit, sélectionneur de l'équipe nationale du Gambie. C'est la première fois que Gambie est qualifiée pour la CAN. On a travaillé 3 ans et demi pour réussir ces qualifications. On a une équipe jeune, mais aussi quelques joueurs avec beaucoup d'expérience. C'est un bon mix. Mais pour nous, c'est la première CAN. On veut voir où nous sommes là pour expérimenter, pour étudier, pour être mieux après. J'espère que c'est la première CAN, mais pas la dernière CAN, parce qu'on a une bonne génération. Mais je sais que nous sommes dans un groupe difficile. Tunisie, c'est peut-être le plus grand dans notre groupe avec la qualité pour gagner la coupe. Mali, c'est une équipe peut-être, il peut être dans le meilleur 4 en Afrique. Et la dernière équipe dans notre groupe, c'est Mauritanie. Mauritanie, un pays toujours difficile de jouer contre. Nous sommes le underdog, nous sommes le plus petit dans le groupe, mais on n'a pas peur. Et après, on peut voir quelle est notre limite.
Bon, il parle aussi très bien anglais, Tom Senfit, donc j'imagine qu'il a pas de mal à communiquer avec ses joueurs. Lui qui a également entraîné le Togo, notamment.
Je crois même pas que ce soit
Ah, c'est un baroudeur. Il a vu du pays.
En Afrique, il a vu
du pays. Il a été sélectionné à Malte également. C'est pas en Afrique, mais ça montre que c'est un globe-trotteur,
un
citoyen du monde.
Qui peut aller accepter des missions difficiles sur le papier, qui n'a pas peur de se confronter à des réalités sportives qui peuvent paraître difficiles, mais voilà, ça peut le mener à des exploits comme la qualification de la Gambie pour la CAN. On a tout de même l'impression qu'il fait preuve d'un respect immense pour ses adversaires de la poule, Patrick, et son discours, c'est plutôt on est un peu là pour apprendre. Et le plus important serait presque de transformer l'essai, que ce soit pas un one shot, comme on dit en anglais, cette participation à la CAN et que la Gambie disparaisse à l'avenir.
Oui, c'est ça. Et même par rapport à sa propre carrière, ça fait plus de 3 ans qu'il est en poste. C'est son séjour le plus long à la tête d'une sélection. On sent qu'il a pris goût à cette équipe, qu'il a à cœur de laisser une trace.
D'expérience en 20 ans, donc c'est vrai qu'il reste pas
longtemps. Il a à cœur de laisser une trace, donc je pense qu'il parle autant pour lui-même pratiquement que pour l'équipe, mais c'est très positif. Il met ses atouts au service de ses joueurs. C'est une équipe prometteuse parce que, mine de rien, si on regarde un petit peu le 11 type, ou enfin, disons les 15 joueurs qui composent le 11 de départ de l'équipe, beaucoup jouent dans des bons clubs et à de très bons niveaux. Hein. Donc, Martin a parlé d'Hassan Cissé, mais il y a également Omar Collet, le défenseur de la Sampdoria, qui est un excellent défenseur italien que j'avais vu jouer notamment contre le Milan AC la saison passée, qui avait bien muselé un certain Zlatan Ibrahimovic, qui est jamais simple à museler pour un défenseur. On a Nusa Barrow de Bologne, qui est un attaquant très complet, qui peut jouer ailier gauche, qui peut jouer avant-centre, deuxième attaquant, enfin qui est un joueur polyvalent de très bonne qualité. Voilà, il y a des joueurs de super niveau dans ces équipes et ça peut donner quelque chose d'intéressant, évidemment. Le manque d'expérience et peut-être le sentiment d'avoir déjà atteint, d'avoir déjà eu l'accomplissement suprême en se qualifiant peut créer un peu de décompression dans une équipe comme ça et peut être fatal. On l'avait vu, c'était pareil, la Mauritanie avait totalement raté son match contre le Mali en 2019. Je crains peut-être le même type de décompression pour la Gambie. Il va falloir qu'ils soient tout de suite très concentrés d'emblée. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils commencent contre a priori l'équipe la plus à leur portée dans ce groupe, à savoir la Mauritanie. Donc, s'ils négocient bien ce premier match, ensuite, ils peuvent se mettre à davantage y croire. Mais ce sera une condition incontournable. Il faudra bien négocier ce premier match. S'ils ne prennent pas de points contre la Mauritanie, j'ai bien peur que les espoirs de qualification se soient définitivement envolés pour eux.
Le mot de la fin, donc sur la Gambie, dernière équipe disséquée par
Scorpion disséqué.
Et dernière équipe d'Afrique de l'Ouest qui ne s'était jamais qualifiée pour une phase finale de CAN. Donc ça dit bien l'exploit qu'a été cette qualification pour ce petit pays enclavé dans le Sénégal.
Juste pour vous dire que c'est une des rares équipes à participer à cette CAN qui n'a pas joué les éliminatoires du Mondial.
Effectivement, éliminé au tour préliminaire.
Exactement, qui avait été éliminé. Ils ont disputé quelques rencontres ça et là. Ils ont une défaite contre la Sierra Leone, malgré un nouveau but d'Hassan Cissé, qui ne s'arrête plus de marquer avec les Scorpions gambiens. Et puis une défaite dans un match amical contre la Nouvelle-Zélande, deux buts pris en première période. Mais des dires de l'entraîneur Tom Saintfit, le meilleur match qu'il n'ait jamais vu de son équipe, en tout cas en deuxième période. Voilà, il voit des progrès. On verra si ces progrès sont confirmés ou non. Lors de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Éliminé au tour préliminaire des éliminateurs de la Coupe du Monde par l'Angola, et sachant que la Gambie prend en quelque sorte la place de l'Angola dans ce groupe F de la CAN par rapport à 2019.
Voilà, on a tout dit. Que la Gambie a éliminé en phase de poule d'ailleurs.
Tout est lié, messieurs. Tout est lié.
Vous ne voulez pas conclure PodCan, comme je vous comprends, mais oui, toute bonne chose.
Les meilleures chances ont une fin.
Exactement. Et c'est la fin de PodCan. On a terminé en beauté avec ce groupe F, celui de l'Imbéc, le Mali.
On vous retrouvera d'ailleurs, Tunisie, la Coupe d'Afrique des Nations.
Et la Gambie, que j'aurai la chance de suivre, effectivement. La CAN, tout simplement. Vous aurez la chance de la suivre, aussi bien avec les équipes qui seront au Cameroun que celles qui seront à Paris. Vous mènerez la danse
avec du côté plaisir.
De la banlieue parisienne, plus précisément ici, les Moulineaux. Mon cher Martin Guay, ce fut un plaisir, Patrick Juillard, Martin.
Plaisir partagé.
De disséquer ce plateau, cette grille de départ de la CAN en votre compagnie tout au long de ces épisodes du podcast de la CAN sur RFI, PodCan. Vous pouvez réécouter toute la série, aussi bien sur notre site internet, l'onglet Radio Foot, hein, l'émission que vous aimez, que vous connaissez bien. Vous allez également sur nos réseaux sociaux, vous allez sur les plateformes de streaming pour écouter PodCan. Vous notez les épisodes sur Apple Podcast, vous nous dites tout le bien que vous pensez, car vous n'en penserez que du bien de cette nouvelle série podcast qu'RFI vous propose, et vous dites surtout beaucoup de bien d'Alice Ménard qui aura été aux manettes de toute cette série, de tous ces épisodes. On vous retrouve très vite pour suivre la Coupe d'Afrique des Nations, 33e édition au Cameroun, sur les antennes de Radio France Internationale, la radio du monde.